Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
On se retrouve dans un tout petit instant pour les débats. La police sous accusation, Gérald Darmanin sous pression. Évidemment, on va revenir sur cette polémique qui enfle depuis la vidéo qui montre des policiers en train de frapper un producteur de musique. On y revient dans un instant. On va parler également des décisions de l'État. L'État qui semble dépassé par le Covid avec des décisions pour le moins absurdes et incompréhensibles. Et puis Noël, vers un Noël sous contrainte. À tout de suite avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour débattre, commenter l'actualité avec aujourd'hui Sophie de Menton. Bonjour, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour à vous. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Et Benoît Jiménez, bonjour. Vous êtes maire UDI de Garges-et-Gonesse et vous êtes également conseiller régional Île-de-France. Bonjour à tous. Nous allons revenir, je le disais tout à l'heure, sur évidemment cette polémique, sur ce qui s'est passé. C'est au-delà d'une polémique, l'agression d'un producteur de musique, des images insoutenables d'un homme qui est frappé par des policiers. On va parler de ce qui se passe avec le Covid, de l'État qui semble quand même dépassé et qui ne sait pas très bien par où prendre la situation. Et puis Noël, qu'allez-vous faire à Noël? Un sondage nous apprend que pour 68% des Français, je crois, Noël risque de tourner au cauchemar. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, on vous attend. 0826 300 300. Commençons avec vous, Virginie Leguet. C'est un coup de cœur.
Oui, un coup de cœur pour Agnès Jaoui, avec lequel je ne suis pas toujours en phase, mais qui, lors de la troisième édition des Assises pour l'égalité, la parité et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel, qui avait lieu le 25 et le 26 novembre au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, a fait une intervention sur son expérience personnelle en tant que femme, enfin en tant que petite fille, jeune fille, femme, actrice, scénariste, réalisatrice, et elle a utilisé le mot « jeu », elle est partie depuis sa toute petite enfance, elle a raconté dans le fond ce qui lui était arrivé, ce que personnellement j'ignorais, elle l'a raconté de façon simple, de façon chronologique et de façon finalement très parlante pour beaucoup de femmes, et j'ai trouvé son intervention remarquable de courage et de franchise.
Et on peut revoir cette intervention ?
Oui, je vous ai d'ailleurs envoyé le lien pour que tous ceux qui puissent la voir puissent y avoir accès. Et ce lien est très facilement trouvable. Il suffit de taper Agnès Jaoui, intervention assise, et vous tombez immédiatement dessus.
D'accord, très bien.
J'aimerais ajouter que ce qui est formidable, c'est que Agnès Jaoui a un humour extraordinaire. Et que les femmes ont de l'humour. Et très souvent, ça a été un peu le propre des hommes. Et que je voulais saluer toutes celles qui avaient de l'humour, qui arrivaient à l'antenne, dont Sandrine Saroche, etc. C'est le règne. Maintenant, les femmes font rire. Et ça, c'est très sympathique.
Bon, ça fait un moment. Il y a eu, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y en a eu déjà depuis un moment. Il y avait les Jeannes. On avait Eva Darlan avec nous. Il y avait Sylvie Joly. Mais c'est, vous avez raison de le souligner également.
Alors je précise que Agnès Jaoui ne fait pas du tout usage de l'humour. Non. Elle raconte les blessures et les mésaventures, pour ne pas dire plus, les agressions dont elle a été victime, et qu'il s'agit d'un témoignage
poignant que drôle. Non, absolument. Benoît Jiménez, votre coup de gueule ou coup de cœur ?
Un peu les deux en réalité. Avec près de 200 maires de villes populaires, on a signé un courrier au président de la République pour alerter, alors que nous sommes évidemment dans une crise sanitaire sans précédent, sur la crise économique et sociale qui va venir toucher nos villes, et notamment les villes populaires de plein fouet dans les semaines et mois qui viennent. Et on a essayé d'anticiper un peu sur le sujet en écrivant au président de la République. J'ai fait partie de la délégation des 9 maires qui ont été reçus par le Premier ministre la semaine dernière, lundi dernier. Et aujourd'hui, on alerte. Alors, on est heureux que le Premier ministre ait pu sanctuariser et poser les mots du 1% du plan de relance sanctuarisé sur les villes populaires. Néanmoins, coup de gueule sur la méthode. On ne voit rien venir. On ne voit rien venir. Et la crainte que nous avons, maire de ville populaire, c'est que les tuyaux, finalement, soient percés et que les annonces et les subventions qu'on promet aux villes populaires n'arrivent finalement pas sur le terrain très directement. Et j'ai des exemples comme ça à l'appel. Je veux peut-être un sujet que j'ai porté auprès du Premier ministre, qui est celui du sport, l'importance du sport dans les villes populaires. Quand on voit aujourd'hui combien les éducateurs de nos clubs sportifs peuvent être parfois les derniers référents face à des jeunes qui sont en dehors de tous les radars. Et c'est la raison pour laquelle, avec un certain nombre d'élus de toute la France et de tous bords politiques, on est en train de monter le Grenelle de l'éducation et de l'insertion par le sport, qui aura lieu le 1er février prochain à Garges-lès-Gonesse, pour mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du sport, et d'abord les présidents, les éducateurs, les élus locaux, parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont les maires et les collectivités qui financent le sport amateur dans notre pays, pour mettre tout ce monde-là autour de la table afin que du terrain, on fasse émerger un vrai cap sur le sujet du sport dans le quartier, avec toute l'idée aussi que ça a sur la relance économique et comment le sport peut prendre toute sa part dans cette relance économique-là. En tous les cas, les idées du terrain, elles existent et on a envie de les faire remonter avec tous les partenaires du sport dans nos villes populaires.
Oui, en sachant que, enfin, en évoquant aussi toute la problématique autour de l'omerta qui règne sur la radicalisation dans le sport.
C'est un des sujets, oui, des exemples très très concrets. Moi, je me bats notamment dans ma collectivité pour qu'on puisse continuer toujours à avoir de l'humain dans nos structures sportives. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à l'autonomisation, par exemple, des structures sportives pour laisser les clubs qui utilisent les structures sportives libres. Ça permet de rationaliser les coûts de ressources humaines dans nos collectivités, etc. Alors que moi, je crois finalement à ce que au bon vieux gardien de stade qui soit là en lien avec les clubs sportifs pour pouvoir faire aussi remonter un certain nombre d'interrogations et parfois aussi être vigilant sur ce que vous pointez du doigt et les dérives potentielles.
Oui, encore faut-il ça. Ouais. Sophie de Menton.
Moi, je suis d'accord absolument avec tout ce que vous dites, mais de A à Z, j'ai juste une interrogation. J'en peux plus d'entendre mettre tout le monde autour de la table, faire un grenelle, faire remonter. Je n'en peux plus. Je veux dire, ça va. Vous avez raison sur tout. Sauf que une fois que vous serez tous autour de la table, qu'il y aura eu un grenelle, qu'il y aura eu un rapport, qu'il y aura eu une commission, qu'il y aura eu l'étude du rapport de la commission, c'est juste ça. Alors, j'aimerais savoir si vous avez de l'espoir quand même là-dessus.
On a non seulement d'espoir, on a proposé quelque chose à Jean Castex avec mes 8 collègues maires. On a proposé, alors ça peut paraître dit comme ça, un énième machin, mais on a proposé de monter le Conseil national des solutions pour une seule chose, dire les annonces qui sont faites, comment on vérifie, point par point, secteur par secteur, comment les annonces qui sont faites et comment le milliard soit déployé sur le terrain. Et on flèche ça ensemble. Ça, c'est quelque chose de très concret qui peut s'apparenter sur le papier à un machin supplémentaire, mais ce n'est pas le cas. On veut être dans la solution et dans le concret.
Alors, Valérie, peut-être Nicolas, une réaction, Nicolas parce Corretto. Que j'entends monsieur le maire et je partage ses craintes et ses inquiétudes. Moi, je parle plus de villes pauvres que de villes populaires, mais on va être d'accord sur le diagnostic. Il y a de plus en plus de villes pauvres et surtout dans notre pays, il va y avoir de plus en plus de pauvres. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'INSEE a annoncé à la fin du confinement 1 million de pauvres, de nouveaux pauvres pour 2021. On est au deuxième confinement et on sait que le diagnostic va s'aggraver malheureusement dans notre pays. Le sujet pour moi, il dépasse largement le plan de relance. 1 milliard d'euros pour les villes dites populaires ou pauvres, ça ne suffira pas. Ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on change nos modèles de redistribution et qu'on se repose la question du modèle de redistribution des richesses en France. Il va y avoir un problème majeur de pauvreté dans ce pays. Il y a un problème majeur aujourd'hui de pauvreté dans ce pays, il sera décuplé demain. Et c'est pas avec 1 milliard ici par là qu'on arrivera à trouver des solutions. Moi, j'entends le dynamisme et la mobilisation des élus. Ça pose un problème politique majeur de savoir dans quelle société on veut vivre demain. Et il va falloir se poser enfin les vraies questions. Et ce sont des questions très politiques. comment on redistribue les richesses, les richesses dans ce pays. Est-ce qu'on va arriver à assumer cette nouvelle pauvreté?
Je voulais simplement rajouter dans le sens Virginie. De ce que vous dites que toutes les associations humanitaires disent depuis plusieurs semaines, et particulièrement ces temps-ci, qu'elles sont totalement débordées par l'afflux de nouvelles personnes qu'elles ne connaissaient pas et qui, hier ou avant-hier, ne faisaient absolument pas partie des pauvres qui venaient réclamer de la nourriture et qu'elles ne savent pas combien de temps elles vont pouvoir subvenir à toutes ces demandes. Et l'État a trop souvent tendance à se reposer sur ces associations qui font un travail colossal dans notre pays et à considérer qu'elle pallie les insuffisances d'une politique qui n'est effectivement pas assez, j'allais dire, financièrement soutenue. Le 1% dont vous avez obtenu, que vous avez obtenu, j'ai l'impression qu'il vous a été obtenu un peu comme ça du bout des lèvres, mais que rien n'a été pensé pour l'attribution de ce 1% et que vous allez avoir bien du mal, vous, élus de terrain, à obtenir que cette attribution se fasse vite, là où vous le voulez et comment vous le voulez.
Alors écoutez, je suis désolée, mais d'abord le constat, il est terrible, je suis bien d'accord, mais on a quand même un État qui a ouvert les vannes et avec, en distribuant de l'argent plus que n'importe qui. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça aille suffisamment vite, que ce soit bien fait, etc. Et ensuite, moi je suis atterrée quand j'entends qu'il faut revoir totalement notre système de redistribution.
Bien sûr.
Je suis atterrée parce qu'on a été le pays, on est le pays le plus imposé. Alors évidemment, quand vous dites redistribution, ça veut dire immédiatement qu'on va taxer les entreprises, les riches, les pseudo-riches, etc. Oui,
bien sûr.
Alors les entreprises, elles sont exsangues. Vous êtes exsangues. Elles n'en peuvent plus. Elles ont un modèle de management qui a complètement été bousculé. On est dans une débandade entre le télétravail, ceux qui veulent absolument revenir, ceux qui veulent absolument pas revenir. On est en train d'essayer de serrer les poings pour y arriver, pour reprendre de la croissance. Et je suis désolée, mais notre système de redistribution, il a été absurde. Il a été alors, d'ailleurs inutile. Et malheureusement, le fait de redistribuer et d'imposer à fond comme tout ce qui a pu exister de d'ISF, d'impôts remis ailleurs, etc., ça n'a servi à rien. Nous sommes un pays où le président de la République l'avait dit. Comment on claque tout ce pognon pour arriver à ce résultat?
Le président de la République a réussi à endiguer la pauvreté.
Mais attendez, c'est pas la critique ou pas de ça.
Mais il a réussi à endiguer la pauvreté.
C'était ironique, Valérie. C'était ironique.
Très mal. On claque beaucoup d'argent et très mal.
Alors, c'est tout ça le problème. Mais Sophie, je suis d'accord avec vous. Je dis simplement qu'il va falloir remettre à plat tout ce système de redistribution des richesses. Pardon, Sophie, de vous le dire, c'est dans les moments difficiles qu'on est le plus solidaire.
Pardon Sophie, mais toutes les entreprises ne sont pas exsangues. Il y en a qui ont beaucoup profité ces derniers mois parce qu'elles sont restées ouvertes malgré les confinements et qu'elles ont fait des profits considérables, ce qui ne les empêche pas de faire des plans de départ et des plans sociaux. Donc je veux bien qu'on pleure sur les entreprises, mais il y a des grands groupes qui ont absolument pas de situation difficile cette année malgré la crise sanitaire et malgré la crise économique qui s'annonce, mais qui, pour préserver leurs dividendes, ont continué à faire des plans sociaux. Et là, il y a peut-être un point qui mériterait d'être souligné.
On aura l'occasion d'en reparler.
C'est tellement exceptionnel que ça ne vaut même pas le coup d'en parler.
Non, il n'est pas exceptionnel, Sophie. N'est pas exceptionnel.
On peut parler de Danone, par exemple. C'est pas exceptionnel.
Mais Danone, voilà. J'ai entendu le patron de Danone, que je ne connais pas et que je n'ai a priori pas envie de défendre, mais qui expliquait, parce que c'est facile de dire Danone, pognon, machin. Ils ont eu, à cause du Covid, ils n'ont plus vendu d'eau du tout. Donc leur branche eau s'est complètement effondrée.
Ils ont vendu beaucoup de yaourts.
Plus de yaourts. On va pas faire un cours d'économie, mais ils ont pas vendu plus de yaourts.
Ils vont distribuer 11 milliards d'euros de dividendes.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est une société qui a eu aussi des
problèmes. Bien sûr, beaucoup de sociétés sont face à des situations difficiles. Il faut les aider. Absolument. Il y a des sociétés aussi qui profitent de la crise, et c'est toujours comme ça, c'est naturel. Mais ça n'empêche pas de se poser la question de la solidarité.
Oui, la solidarité. Alors justement, je voudrais que vous nous parliez de votre coup de cœur qui m'amènera sur un peu le même coup de cœur et un peu coup de gueule aussi. Allez-y, Nicolas Corato.
Oui, alors comme vous voyez, j'ai été un peu amoché dernièrement. C'est les aventures des bobos islamo-gauchistes qui font du vélo et qui parfois en font mal. Et donc, je me suis retrouvé aux urgences de l'hôpital Lariboisière, un hôpital public. Alors pour les auditeurs qui ne sont pas parisiens, c'est un hôpital qui a peut-être la plus mauvaise réputation d'Île-de-France et surtout ses urgences, dans le sens où c'est un hôpital coincé entre deux gares, la gare du Nord, la gare de l'Est, dans un quartier, monsieur le maire, très populaire, très difficile également, avec une population toxicomane. Bon, bref, se retrouver dans ces urgences-là, on ne le souhaite à personne. Et je devais dire que moi, j'ai vécu une expérience humaine absolument formidable, d'abord parce que de l'accueil jusqu'à l'aide-soignante et aux internes, j'ai trouvé, il faut le dire, des jeunes femmes, parce que ce sont des jeunes femmes, absolument géniales, d'une humanité totale. Alors oui, on attend, oui, c'est long, mais on est très bien pris en compte, on est très bien soigné. On est très content à 2h du matin de pouvoir faire une radio pour se rassurer. Et on se dit que ce pognon de dingue qu'on met, selon le président de la République, notamment dans nos hôpitaux et dans nos services sociaux, eh ben c'est quand même c'est bien qu'on mette ce pognon de dingue. Et que pour ces soignantes qui récupèrent également tous les clochards, tous les SDF qui sont autour de cet hôpital, qui viennent passer un peu. C'est le dernier endroit où on peut passer la nuit au chaud. Alors, ils n'ont rien, mais on leur fait quand même les premières auscultations, on leur fait un test Covid, on les laisse dormir. Et ce sont des jeunes femmes qui ont entre 20 et 25 ans, qui s'occupent de toute cette population majoritairement masculine. Moi, je pense qu'il faut qu'on reconsidère aussi, qu'on revoie la manière dont ces jeunes femmes travaillent, la manière dont on leur donne des moyens. Et je finis par ça parce que ça m'avait beaucoup choqué quand Agnès Buzyn avait pris ses fonctions. Elle était passée chez une de radio concurrente et elle avait dit « Je suis une ministre de la Santé qui arrive et je suis contente comme ministre parce que les hôpitaux sont à l'équilibre financier ». Eh ben moi, hier soir, dans une nuit un peu compliquée, j'étais content de me dire que j'espère que les hôpitaux ne seront plus jamais à l'équilibre financier et qu'on donnera enfin des moyens à ces jeunes femmes d'assumer un service social de qualité et qui fait honneur à la France.
Mais pour avoir ce que vous avez eu, et il faut les féliciter, et c'est bien de le remarquer, il faut que l'hôpital soit en équilibre.
Ah bon ? Pourquoi ?
Pourquoi est-ce que vous faites des contradictions pareilles ? Qu'on les paye mieux, il faut qu'on les paye mieux,
oui.
Il faut qu'il y ait plus de places, il faut qu'on attende moins, il faut qu'on recrute plus.
Et bien pour tout ça, il faut investir, et l'hôpital n'est pas une entreprise.
Non, l'hôpital n'est pas une entreprise.
L'hôpital ne doit pas être rentable pour être efficace, c'est n'importe quoi.
Non. C'est exactement le contraire. Moi, je vais raconter mon chose, oui, Virginie.
J'ajouterai une chose à propos de l'hôpital. Je pense que tout organisme doit être rentable pour pouvoir fonctionner correctement, mais que peut-être l'organisation de l'hôpital pourrait être revue. Il y a dans notre pays plus de fonctionnaires que de soignants qui sont auprès des malades, et il y a peut-être là un empilement de structures à l'intérieur du système hospitalier qui mériterait d'être allégé, pour ne pas dire supprimé en partie, parce que je souligne que depuis le premier confinement, les lits ont continué à fermer l'administration a repris ses droits à peine le premier confinement terminé et a repris ce qu'elle était censée faire, c'est-à-dire continuer à faire des économies sur le dos du personnel soignant et sur le dos des patients. Donc plutôt que protéger les fonctionnaires de santé, il vaudrait mieux en supprimer une partie, me semble-t-il.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on va commencer à débattre. Vos coups de cœur, coups de gueule ont été un petit peu longs. Il y a un auditeur qui me dit Sud Radio, parlons vrai avec des vrais gens. Mais on est des vrais gens, Mickaël. Je veux dire, on est des vrais gens avec nos soucis. On fait nos courses. On a tous des ennuis, des problèmes. On est tous touchés par le Covid d'une certaine manière, dans nos familles. Enfin, qu'est-ce que vous imaginez que parce qu'on est dans un studio de radio, on n'est pas des vrais gens ? On est des vrais gens. On est, vous ne savez rien de nous.
Une vraie vie avec des problèmes réels.
Avec des problèmes réels, vous ne savez pas qui nous sommes, vous ne savez pas comment nous vivons, vous ne savez pas combien nous sommes payés, vous ne savez rien. Donc ces jugements à l'emporte-pièce sont absolument détestables. Et moi, je voulais vous raconter juste rapidement, vous êtes allé à la Riboisière, moi je suis allé dans un autre hôpital cette semaine à Paris qui m'a glacée. Alors non pas par le personnel qui est exceptionnel, mais c'est l'hôpital Tarnier-Cochin qui est spécialiste de dermatologie, qui est dans le 6e arrondissement de Paris. J'ai eu l'impression de rentrer dans le film Shining, c'est-à-dire des longs couloirs noirs, sans lumière, de la lumière, pas de lumière du tout, pour se retrouver, c'est un labyrinthe insensé, un hôpital qui n'a pas été repeint, qui n'a pas été restauré, et là on se dit, mais où passe l'argent effectivement, où est redistribué l'argent? Je veux dire que les médecins sont exceptionnels, on a parmi les plus grands professeurs de médecine, les plus grands médecins en dermatologie et autres à cet endroit-là, les box sont tout à fait propres, mais l'hôpital en lui-même tombe en lambeaux. On a l'impression, on aurait un film à tourner au 19e, au 19e siècle, ce serait ça. C'est quand même, moi j'ai été stupéfaite de voir dans quel état de délabrement on laisse ces hôpitaux. Alors Michael me répond, vous êtes des vrais gens de la même classe sociale et du même âge, les gagnants du confinement. Bah écoutez, c'est votre avis Michael. Non, on n'a pas le même âge, je peux vous dire qu'il y a des grosses différences d'âge, même si vous pensez qu'on a le même âge, on n'a pas le même âge, on n'est pas du tout de la même classe sociale, on n'a pas du tout les mêmes vies, et on a parfois des gens, on a des enseignants comme François Coq qui viennent, on essaie d'avoir une diversité d'invités chez nous dans cette émission, on a des élus de temps en temps, donc voilà. Allez, on passe au sujet qui occupe l'actualité, qui est évidemment... pardon, Sophie, votre coup de cœur, excusez-moi, allez-y, j'espère que ça ne va pas nous emmener jusqu'à midi. C'est quoi votre coup de cœur? Je vous ai oublié.
Ah oui, alors j'avais un coup de cœur, figurez-vous, pour la baguette. Oui, parce que je pense d'abord terriblement aux commerçants, je pense aux boulangers qui ont été formidables tout le temps, tous les boulangers ont été ouverts, ils y fournissent les repas des salariés aujourd'hui, ils sont mobilisés, etc. Et il se trouve que le président de la République, en 2018, avait apporté son soutien à un type formidable qui s'appelle Dominique Aracte, qui est le président de la Fédération des boulangers, pour que la baguette soit classée à l'UNESCO. Et je trouvais que c'était une bonne idée, au patrimoine de l'UNESCO. Et simplement, ça c'est encore un des autres problèmes français, il fallait que ce soit présenté par le ministre de la Culture, qui à l'époque était Franck Riester. Et tout d'un coup, la culture, on s'est dit, mon Dieu, quelle horreur, présenter une baguette comme symbole de la culture française, ça paraissait pas possible. Donc ça n'a pas été fait. On a interrogé les Français qui sont, j'ai le sondage, 9 Français sur 10 adore cette candidature et l'idée de cette candidature, c'est le TSA qui a fait ça. Et donc, on espère qu'en 2021, ça va être un signe d'encouragement et que la baguette française va être classée au patrimoine de l'UNESCO.
Bon, d'accord, c'est un peu sorti de nulle part votre truc, mais moi j'avais encore un coup de gueule sur, mais je l'ai déjà dit hier, sur l'année de la gastronomie annoncée par Jean Castex. On a l'impression un petit chou-sucre à nos restaurateurs en leur disant voilà, on vous aime, etc. Sauf que je sais pas s'il va rester beaucoup de restaurateurs pour fêter la gastronomie. Alors hier, le ministre de l'Intérieur se serait bien passé de cette nouvelle polémique en plein débat sur la loi sécurité globale, évidemment, cette vidéo du dérapage d'une patrouille à Paris qui suscite l'indignation, des images scandaleuses de policiers qui frappent vraiment avec une très grande brutalité un homme, un producteur de musique. Gérald Darmanin a demandé la suspension de ces 3 agents. Évidemment, ça tombe très mal puisque ça tombe au moment de la discussion de cet article 24 qui demande effectivement à ce que on ne puisse plus filmer les policiers. Donc le gouvernement ouvre la voie à une nouvelle écriture. C'est une manière de dire que cet article 24, à mon avis, va être supprimé. Voilà. Que pensez-vous de ce qui s'est passé, de ces images? Certains nous disent présomption d'innocence aussi, même si les images sont extrêmement choquantes. On ne connaît pas le contexte, on ne sait pas ce qui se passe, même si, quel que soit le contexte, on n'a pas à frapper un homme de cette manière.
Cette affaire, moi, je veux bien démarrer, oui, cette affaire, elle est d'une gravité extrême. Ces policiers ne méritent pas autre chose. D'ailleurs, je crois que ça vient de tomber. Les policiers vont être mis en garde à vue, là, il me semble. Moi, je suis maire de Garges-lès-Gonesse. J'organise avec mes antennes jeunesse tout au long de l'année, avec les jeunes de nos quartiers, des rencontres avec la police nationale, avec la police de sécurité du quotidien qui est déployée sur mon territoire. Tout au long de l'année, on n'arrête pas d'essayer de faire en sorte que le dialogue existe, que l'on puisse, entre jeunes de nos quartiers populaires et policiers, se connaître, mieux s'appréhender, savoir quel est le rôle de la police. Et quand on voit ce type cette vidéo et cette agression affreuse, moi, je suis absolument déconcerté. Parce que la profession de la police qui est mise à mal. Mais là, je pense à ce pauvre Michel qui n'a rien demandé et qu'on vient tabasser tel qu'on... Attendez,
bien sûr que vous avez raison, personne au monde ne peut vous donner tort sur le mec tabassé. Mais ce qui est insupportable, c'est que tout d'un coup, il n'y a plus que ça. Et là, la police n'existe plus, la police est réduite à cet acte-là. Il y a quatre types minables, si c'est vrai.
Trois,
si c'est vrai, qui ont été d'une violence lamentable.
C'est vrai, il y a des images.
Ils sont évidemment qu'ils doivent être virés.
C'est vrai.
On est d'accord. Mais voilà, on dit, ça tombe bien mal pour Darmanin. Et tout est comme ça dans ce pays. Dès qu'on essaie de faire quelque chose, il y a un accident ou un incident repris par les médias qui empêche d'avancer. Donc tout d'un coup, la loi sur la sécurité, c'est tout qui se remet en doute.
Sophie, je veux bien que... Oui, je veux bien qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé depuis quelques jours et je trouve que c'est à juste titre. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo, moi je l'ai vue de bout en bout, elle est d'une violence franchement insoutenable, il y a trois policiers qui tabassent, et le mot n'est pas assez fort même, un homme qui, parce qu'il ne portait pas de masque, subit ce genre de traitement. Pire encore, ces mêmes policiers... après, l'ont placé en garde à vue pendant 48 heures et ont porté plainte en disant que c'était lui qui les avait agressés. J'ajouterais que ces policiers ne savaient pas qu'ils avaient été filmés et que heureusement qu'ils ont été filmés parce que leur version a été totalement démentie par la vidéo de Loopsider qui a été vue 12 millions de fois. Et j'ajouterais une troisième chose qui m'a profondément choquée. J'ai écouté Monsieur Darmanin hier soir qui dit oui, c'est très choquant, bien sûr, si les faits s'avèrent exacts, ils seront radiés, à l'heure actuelle, ils sont suspendus, et qui a ajouté cette phrase qui, moi, m'a sidérée, il a dit « lorsqu'il y a des gens qui déconnent ». Mais là, il ne s'agit pas de gens qui déconnent, il s'agit de policiers qui sont détenteurs de l'autorité et qui ont tabassé quelqu'un qui, parce qu'il ne portait pas de masque, s'est retrouvé en garde à vue et qui ont fait des déclarations mensongères. Je trouve ça extrêmement grave, parce que ça fait des mois que le terme « violence policière » émaille le discours public. Ça fait des mois que des gens comme moi et d'autres disent « Non, il n'y a pas que des violences policières, il y a aussi des violences contre la police et la police est souvent une cible. » Et ça fait des mois qu'on essaye disons, d'être objectif dans cette affaire. Mais là, il n'y a pas à être d'un côté ou de l'autre. Regardez la vidéo, regardez ce qui s'est passé, regardez les déclarations des policiers, regardez la déclaration de M. Darmanin, de haut en bas, les réactions ne sont pas convenables.
Virginie, on est d'accord. Ce que dit Sophie, c'est que on a ces images qui sont très choquantes, qui sont inadmissibles. Depuis hier matin, il y a une enquête, donc on est tous très prompts quand même à juger. Comme ça, il y aura une enquête, les policiers vont être entendus, vont expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que trois policiers se jettent sur un homme pour le tabasser?
Parce qu'il ne portait pas de masque.
Juste ce que je voulais dire, c'est ce que dit Sophie, c'est-à-dire qu'il y a ça, il y a ce qui s'est passé. On a 15 000 policiers et gendarmes qui sont blessés chaque année. On a 25 000 morts par an en opération. On a 50 suicides. On a quand même des choses qui se passent hier à Saint-Denis où des dealers qui ont été réprimandés par une femme de ménage parce qu'ils jetaient leur mégot par terre. On dit, on va revenir. Ils sont revenus pour s'en prendre à ceux qui... Alors, ça ne justifie absolument pas. Pour justifier le tabassage.
Là, on excuse une autre.
Mais ça n'excuse pas, sauf que le projecteur est jeté sur cette histoire-là dont on ne fait que parler. La police doit être exemplaire, je suis d'accord. Sauf que ce qui s'est passé à Saint-Denis, où des types à 30 sont venus et ont jeté un type par la fenêtre, tout le monde s'en fout. Donc c'est un peu le deux poids. Mais comment c'est pas vrai, à part France Bleu qui en a parlé? Qui en a parlé Valérie, à part France Bleu?
Valérie,
mais
moi,
c'est pas
je
pour
voudrais
dire,
juste
c'est
intervenir.
Pas le... Allez-y,
là,
allez-y,
là,
Nicolas.
J'entends ce que vous dites, Valérie, et c'est vrai que entre différents faits divers, et je rejoins Sophie de Menton, vous voyez, ça va vous étonner, mais entre différents faits divers, oui, il y a un choix éditorial aussi que font les médias de braquer le projecteur plutôt sur l'un plutôt que sur l'autre. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans cette vidéo, ça n'est pas justement un fait divers.
Exactement.
Non. C'est bien plus grave que ça.
Je suis
d'accord
avec
vous. Parce que moi, ce que je trouve extrêmement choquant, c'est de voir...
C'est-à-dire que jeter un mec par la fenêtre, c'est plus un fait divers non plus.
Non, Valérie. Quand des délinquants, quand des criminels agissent, ils sont délinquants, ils sont criminels, ils sont face à la police et à leur juge.
Non, mais je suis d'accord avec vous.
Moi, ce que je trouve gravissime dans cette affaire, c'est qu'on voit des policiers se conduire comme des délinquants. On voit des policiers se conduire comme des voyous. On voit des policiers se conduire comme des quasi-criminels. On voit des policiers qui, manifestement, mais l'enquête le dira, il faut être très prudent, violent le droit et la loi. On voit quand même, parce qu'il n'y a pas que trois policiers dans la vidéo, ensuite il y en a d'autres qui arrivent.
Exactement.
Il y en a un qui tire une grenade lacrymogène dans un domicile, dans un lieu privé. Mais enfin, mais...
Pardon, sur fond de racisme aussi, parce que le salaire qu'on entend... Est aussi insupportable.
Bien sûr. Donc, ce qui se passe avec cette vidéo n'est pas un fait divers parce qu'il n'est pas non plus isolé. Vous avez raison, il n'y a pas non plus, il y a beaucoup de faits de violence sur les policiers. Mais depuis la place de la République, cette semaine, l'affaire Michel, les affaires dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, est-ce que ça a évolué? Est-ce que le ministre de l'Intérieur
a
pris
sûr que non.
à corps ce sujet? Et comment peut-on encore dire, quand on est ministre de l'Intérieur, que ces policiers déconnent? Ces policiers violent leur uniforme.
Exactement.
Ces policiers déshonorent tous leurs autres collègues. Ces policiers déshonorent la République, quels que soient les faits, quel que soit le contexte.
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Il faut oser le dire, si on tient la police, si on veut les soutenir, on peut pas être solidaire et on ne peut pas trouver d'excuses ou de nuances par rapport à cette vidéo qui est ignoble pour notre République et qui est dangereuse, comme le disait monsieur le maire, parce que moi qui suis un simple citoyen qui n'ai jamais été délinquant, quand je regarde ces images, je commence à avoir peur de la police.
Alors, il y a une réalité.
Je commence à dire à mes enfants de faire attention quand ils croisent des policiers. Vous rendez compte? Vous rendez compte, on en arrive? Effectivement, on peut voir les dégâts que peuvent commettre ce genre de gestes irresponsables et qu'on ne peut absolument pas.
Enfin, ce que vous dites me semble absolument ahurissant. C'est-à-dire qu'on imagine que des policiers, donc on est dans un état fasciste, policier, où des policiers que vous allez croiser dans la rue vont se mettre à vous matraquer sans aucune raison.
Bien sûr, parce que je peux vous dire que effectivement certains contrôles d'identité ont tendance à dégénérer. Oui, ça existe, Valérie. Ça existe aussi.
Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je vous semblais dire c'est le cas général. C'est ça qui me gêne dans l'argumentation. Alors peut-être Benoît Jiménez, vous qui êtes confronté justement dans votre ville de Garges-lès-Gonesse à des problèmes justement entre citoyens et policiers.
Est-ce que dit Nicolas Corato est juste, mais effectivement, il ne disait pas, j'imagine, il ne généralisait pas. Ceci dit, ça existe et il ne faut pas fermer les yeux là-dessus parce que c'est un vrai problème, notamment dans nos villes et nos quartiers populaires. Simplement, l'acte abominable qui a été vécu hier par Michel, effectivement, remet en cause finalement toute la profession de la police et tous ceux qui font un travail extraordinaire au quotidien et qui sont, on le rappelait, aussi parfois jetés à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux, etc. Quand on balance leurs photos, quand on dit sur les réseaux sociaux où est-ce qu'ils vivent, quelle est la plaque d'immatriculation et le véhicule personnel qu'ils ont. Donc, il faut protéger la fonction de policiers dans notre pays. Mais pour la protéger, il faut être capable, excusez-moi le terme, de pouvoir écarter quand il le faut les brebis galeuses.
Absolument, vous avez raison.
Et ça, c'est inacceptable.
Oui, vous avez entièrement raison.
Il y a quand même une réalité, c'est que on a une décadence et une dégénérescence de notre société. Et ce qui est terrible, c'est que ce que nous voyons, parce que globalement, on est quand même d'accord, ce qui s'est passé est monstrueux, il y a des événements effroyables au sein de la police, c'est pas toute la police, et on essaie de maîtriser ça. Cela dit, quand vous êtes ministre de l'Intérieur aujourd'hui, vous êtes quand même obligé, parce que ça c'est nécessaire, de soutenir vos troupes, certainement pas quand il y a un accident pareil, mais il faut les soutenir, et c'est son rôle de dire que c'est surtout pas la majorité des policiers policier qui se comporte comme ça.
Mais est-ce que c'est son rôle de dire qu'il y a des gens qui déconnent? Il ne s'agit pas de déconnage.
Le mot de déconnage était très mal choisi.
Déconne, il a dit lorsqu'il y a des gens qui déconnent. À la télévision, il dit ça, le soir même.
Mais Sophie, est-ce que le rôle d'un ministre de l'Intérieur, ça n'est pas aussi de prendre ses responsabilités et par exemple, pardon, de se poser la question de la démission du préfet de police de Paris? Est-ce qu'on peut parler de ce sujet? Non, mais c'est une question politique majeure.
Oui, c'est une question parce qu'ils obéissent aux ordres et ils obéissent à ce qu'on leur dit de faire.
Moi, ce que je dénonce, ça n'est pas les policiers républicains. Ce que je dénonce, c'est ces actes inqualifiables, mais aussi, peut-être un sentiment d'impunité chez certains policiers qui ne naît pas d'eux-mêmes, qui naît des ordres et des consignes qu'on leur donne. Il y a quand même un sujet sur cette histoire. Sophie, je finis juste. Samedi, il y a une manifestation pour les libertés publiques. Le préfet de police de Paris a décidé de l'interdire. Devait aller de République à Bastille. Il a décidé de l'interdire et il la cantonne sur la place de la République. Moi, je vous donne, et on se reparlera lundi, échafourés place de la République. Évidemment. Il y aura certainement des policiers blessés. C'est un appel à l'escalade anti-flic, cette histoire de manifestation et de décision du préfet de police. Est-ce que c'est normal qu'un préfet de police prenne de telles décisions? C'est extrêmement grave ce qui se passe. Extrêmement grave.
Alors, attendez, vraiment, seconde. Premièrement,
alors, Sophie, vous allez répondre dans un petit instant parce qu'on doit marquer une petite pause. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors Sophie de Menton, vous vouliez répondre à ce que nous disions à propos donc de la police, des violences policières, de ces brebis galeuses qui doivent être suspendues quand elles commettent des actes comme ceux dont on a pu voir les images. Que vouliez-vous dire ?
Je voulais dire qu'évidemment qu'il fallait qu'elles soient suspendues et radiées. Je voulais dire également que on est là, bon, moi je veux bien que le préfet, on fasse sauter le préfet, c'est pas pour ça qu'il y aura moins de policiers voyous. Il y a un dysfonctionnement sociétal, on a été nous-mêmes complètement contradictoires, on applaudit la police, on les caillasse, on leur dit que ce sont des minables, ils en prennent plein la gueule depuis un an, mais plein la gueule, les gilets jaunes, les manifs, tout, très bien. Y compris les familles, on en a eu dans cette émission, Valérie, la femme qui représentait les épouses de policiers qui sont mortes de peur, qui ne savent plus où habiter, qui sortent masquées. Je veux dire, il y a un vrai problème de violence sociétale effroyable. Il faut que le ministre de l'Intérieur s'en saisisse, qu'il ait des mots maladroits, c'est une chose. Il a essayé aussi, et cette loi mal faite, c'est vrai que la maladresse est épouvantable dans ce type de circonstances, mais que des visages de policiers ne circulent pas, vous vous rendez pas compte, c'est leur famille menacée, c'est des mecs qui se font... qui sont menacés de mort toute la journée. Donc, il faut quand même raison garder. Autant c'est insupportable de voir ça, autant il faudrait s'attaquer à un malaise sociétal beaucoup plus profond. Et on a refusé de voir qu'il fallait une autorité saine et plus d'autorité dans notre pays. Ça, c'est détestable. Et en plus, curieusement, et c'est stupide, la gauche était forcément anti-sécurité, anti-flic, anti-discipline. Et la droite voulait plus, et à tort, peut-être souvent, beaucoup plus d'autorité. Donc, il faut aussi voir les choses d'un peu plus haut. Et je ne sais pas, d'ailleurs, aujourd'hui, comment reprendre totalement les policiers. Je pense qu'il faut les former, il faut redonner des consignes fortes.
Ce n'est pas de les former, je pense qu'il y a des ordres, encore une fois. De ce qu'on entend, c'est quand même les ordres qui sont donnés par le préfet.
L'encadrement.
Ça pose le problème de l'encadrement, absolument.
De la surveillance. Moi, je suis aussi très frappée de voir que cette fameuse IGPN que les syndicats de policiers brandissent toute la journée en disant on est le corps professionnel le plus contrôlé de France. Peut-être que l'IGPN est souvent saisie, mais très souvent quand on suit les enquêtes dont l'IGPN a eu la charge, on s'aperçoit qu'elles sont souvent classées sans suite ou que les 10 policiers qui ont fait l'objet de cette enquête n'écopent que de choses extrêmement faibles, extrêmement minimes. Donc est-ce qu'il faut que l'IGPN, qui finalement est très connexe des policiers, très proche des policiers, parce qu'elle-même est composée de policiers. Est-ce qu'il faut que l'IGPN soit réformée? Est-ce qu'il faut trouver une instance plus distante des policiers pour contrôler ce qui se passe à l'intérieur du corps de la police? Moi, je le répète, j'ai souvent défendu la police et j'ai souvent trouvé qu'elle faisait un travail exceptionnel dans des conditions très difficiles. Mais d'autant plus quand il y a des exemples comme celui que nous avons pu voir avec Michel, il faut que les sanctions soient exemplaires. Et or, il ne me semble pas qu'elles le soient toujours.
Je voudrais répondre à Sophie, dire que, vous savez, à gauche, Sophie aussi, on aime la police. Et on l'aime tellement qu'on l'a créé la police de proximité, que la droite a détricoté et que les 15 000 postes. Les 15 000 postes de policiers ont été supprimés par Nicolas Sarkozy, pas par la gauche. Donc, la gauche, elle aime la police, elle aime les policiers, elle aime les policiers républicains, parce que c'est d'abord une police républicaine. Et moi, j'ai pas de problème avec le discours d'autorité et le concept d'autorité. J'ai un problème avec l'autoritarisme, Sophie. Et je pense que cette question-là, on doit se la poser aussi.
Alors, on a un auditeur avec nous, qu'on a Claude de Perpignan. Bonjour, Claude.
Oui, bonjour. J'ai appelé avant la pause, c'était chaud.
Alors voilà. Non,
ce que je voulais dire, non, mais je comprends bien. Mais moi, je voudrais revenir, je crois que c'est vous, Valérie Expert, qui avez fait de la modération autour du thème « On choisit quand même entre les faits divers, on parle davantage des uns et des autres », et quelqu'un, je crois que c'est Nicolas Corrado, est monté sur ses grands chevaux, « faits divers, mais non, c'est pire ». Moi, je voudrais dire que notre langage s'appauvrit au fur et à mesure que les choses se compliquent. « Faits divers, aujourd'hui, c'est bon pour tout », je suppose que c'est un concept juridique. Moi, quand j'ai entendu l'assassinat d'Estelle Mouzin, c'est pas un fait divers. Quand j'entends le dingue qui a étranglé sa jeune femme, c'est pas un fait divers. Quand j'entends ce que vous avez
Jonathan
cité,
Daval.
Une personne qui balance une personne par la fenêtre, c'est pas un fait divers. Et donc, si tout est des faits divers, quand les policiers font des conneries, c'est des faits divers aussi. Et je crois que je rejoindrai, moi, ce qui s'est dit à la fin. On a passé un temps énorme sur un fait divers policier scandaleux que tout le monde condamne et moi le premier. Mais je veux dire que ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, il y a tous les autres et que les policiers en prennent plein leur gueule et leur famille aussi. Et vous avez bien fait de le dire à la fin, hein, il faut être exemplaire quand il y a une connerie de fait, mais il ne faut pas mettre en cause la vie de ces gens. Hein. Il y a des couples de policiers assassinés devant leurs enfants, ce n'est pas des faits divers non plus. Hein. Voilà, non. Merci.
Merci Claude, merci de votre intervention. Une réaction à ce que vient de dire Claude, qui est du bon sens.
Claude a raison.
Oui. Il a raison Claude, simplement c'est vrai que c'est parce qu'on a envie de protéger ce beau métier qui est celui du policier qu'on ne peut pas se permettre de tergiverser quand on voit ce type d'image.
On peut Alors, on a envie de le protéger, encore une fois, monsieur le maire, on a envie de le protéger. Protégeons les policiers aussi qui se font massacrer quand ils vont intervention dans certains endroits. Donc là, ils ne sont pas très soutenus non plus. C'est aussi ça qu'il faut aussi voir. Donc, protéger des deux côtés.
Ah mais il faut absolument protéger les deux.
Le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur, à Darmanin, de mieux tenir ses troupes. Moi, ce genre d'expression, quand on voit la complexité de la société actuellement, me semble assez incompréhensible. Je pense aussi à la situation où les policiers ont été assez violents, faisant des croche-pieds, etc. Enfin, pas la même type de violence, heureusement, en essayant de virer des migrants il n'y a pas longtemps.
Place de la République.
Bon, c'est pas évident non plus. Je veux dire, ils sont tous les jours confrontés à ce genre de choses. C'est nous qui sommes responsables d'avoir des migrants à ce moment-là, n'importe où, sans être capable de les loger, de pas. Il y a tout un système qui est complètement fou. Et donc, je sais pas, franchement, quand on est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, comment, entre guillemets, on tient ses troupes, sinon en punissant avec une sévérité implacable des dérives comme celles qu'on a vues. Si vraiment, alors, faut tout regarder, mais de toute façon, ils étaient trois, le mec était seul, même s'il avait fumé du shit, parce que moi j'ai entendu d'autres échos qu'il avait fumé du shit, qu'il les a insultés, qu'il leur a fait un doigt d'honneur. Ça n'a aucune justification pour se faire casser la gueule comme ça, aucune. Non. Mais c'est pas non plus, c'était pas un monsieur qui est sorti en disant « Oh, excusez-moi, oui, je vais mettre mon masque ou j'ai pas envie de le mettre ».
Mais on n'en sait rien, Sophie. On n'en sait absolument rien, ni dans un sens, ni dans un autre.
En disant que ce sont quasi les condamnés à mort, on n'en sait rien.
Bon, je ne sais pas si, voilà, si on, ça nous a occupés, on n'a pas eu le temps de, d'évoquer les autres sujets, en particulier le gouvernement qui semble quand même un petit peu à l'ouest sur, sur le Covid, avec des annonces qui sont parfois un peu contradictoires. Faut rappeler, j'entendais une commerçante le dire sur une antenne et un autre commerçant me le dire, c'est que le chômage partiel n'a pas été payé. Depuis le mois de septembre aux entreprises, et que Bercy répond oui oui on sait, on a fait remonter, mais on n'a pas assez de salariés, on n'a pas assez de fonctionnaires pour traiter tous les dossiers. Donc pendant ce temps-là, pardon,
je dis voilà, tout est là, c'est un manque de fonctionnaires.
Voilà, c'est un manque de fonctionnaires.
Je sais pas, ça si coûte c'est... cher de distribuer l'argent, oui.
Absolument. Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous retrouverez André Bercoff. Très bonne journée sur Sud Radio.